Bonsoir, alors bienvenue au Hackerspace Rouen Jeanne d'Arc.
Aujourd'hui, dans l'ordre qu'ils sont autour de moi, hein, il n'y a pas de préférence. Zigazou, Moebius Eye, Shkak et Pic, et puis Ignork, c'est moi.
On se place à la droite de Dieu, c'est ça?
Ouais.
L'ordre de préférence.
Oui, non, dans 18 minutes de montre. Et donc aujourd'hui, on n'a pas grand-chose, donc ça va être assez court, je pense. Donc Zigazou a préparé son défi où il devait répondre à l'insipide Merci Google. Moi, j'y ai rien préparé, mais du coup, je vous expliquerai, selon moi, jusqu'où il faut s'arrêter dans la sécurisation des données. Et ensuite, on vous parle de l'actualité de la DCRI. Ça, c'est totalement improvisé. On verra si on arrive. Voilà. Zigazou, c'est à toi. Merci, Google.
Alors, merci, Google. En fait, c'est parti d'un petit peu d'un coup de gueule que j'avais sur Google.
Oui, et j'ai imposé ce défi-là.
Voilà, et parce que il faut le dire que Gnark profite honteusement de revenus qui lui proviennent de Google.
Oui, voilà.
Puisqu'il a mis de la pub sur certains de ses blogs.
Oh ouais, c'est un site en fait qui m'a apporté
énormément. Voilà. Énormément.
Bon, honteusement, t'as honte ?
Ah non, moi je suis très fier. Voilà. Non, le mois le mieux. On est dans le mois le mieux, ça rebaisse. Je me suis fait un SMIC brut sans rien faire, quoi.
Merci Google, pardon.
Ça
l'intéresse. Ça
n'a pas donné trop d'éléments parce que je verrai s'il déclare aux impôts la fin d'année.
Parce qu'il faut des sites à gros débit pour ce genre de revenus.
Je fais pas énormément de visiteurs, je fais déjà faire 500 visiteurs par jour. Mais par contre, tous mes visiteurs me font 100 pages vues à chaque fois. Donc ce qui fait qu'à la fin du mois, j'ai 1 300 000 pages vues.
Ah.
Voilà. Et en proportion, je vais avoir 0,01% de taux de clic, mais ça suffit à générer un truc sympa.
Ok.
Voilà. Donc, le problème pour moi dans Google, moi qui travaille dans une collectivité territoriale...
Mais moi aussi, je travaille dans une collectivité décentralisée. Hein.
C'est mal. C'est que le but de Google, c'est, comme toute entreprise, de faire de l'argent, de faire des bénéfices. Pour faire des bénéfices, Google a choisi de vendre en fait de la publicité. Bah oui, c'est comme ça qu'ils vivent. Pour pouvoir vendre de la publicité, comme il y a des millions de sites, il y a des millions d'utilisateurs, il y a aussi pas mal d'annonceurs, il faut que Google cible parfaitement les différents internautes pour justement pouvoir leur présenter de la pub.
Avec une plus-value, parce qu'ils pourraient pas cibler.
Voilà. Pour pouvoir présenter la pub, notamment sur leur site, mais aussi sur le réseau de AdSense AdWords. Pour cibler, il faut connaître les internautes, et pour connaître les internautes, il faut récupérer le maximum d'informations les concernant. Pour récupérer les informations concernant une personne, il y a deux possibilités. Soit on prend ces informations sans son consentement, ce qu'on appelle du piratage, soit on prend ces informations avec le consentement, plus ou moins implicite, plutôt plus que moins. Pour cela, Google multiplie en gros les moyens et suit à la trace le maximum d'adresses, donc le maximum de personnes, grâce à une pléthore d'outils gratuits. Le plus connu, c'est Google Search, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez sur Google Search, donc sur le moteur de recherche de Google, pour faire une recherche, il va évidemment enregistrer ce que vous recherchez. Il va aussi enregistrer les liens sur lesquels vous cliquez. Vous avez Google Translate, vous avez Google Books. L'un des plus gros outils, Google Analytics, on va revenir après. Vous avez Google Doc, vous avez Gmail, vous avez Google+, le réseau Google AdSense AdWords, quand ils présentent les publicités. Les DNS de Google, donc qui permettent de savoir ce que vous demandez comme site via le DNS. Les outils Google de génération de graphiques, les polices de caractère Google, les outils de partage embarqués, les vidéos YouTube sur le site YouTube ou embarquées sur les différentes pages. Plus tout un tas d'autres, un peu plus anecdotiques, mais qui font que, à un moment donné, c'est très difficile d'arriver sur un site qui n'a pas même un petit lien avec Google. Par exemple, sur le site de ma collectivité, effectivement, on n'utilise pas Google Analytics. Par contre, on utilise des Google Maps.
Ouais.
Et les Google Maps, bah forcément, à un moment donné, Google va enregistrer la page et l'adresse de la page.
Enregistrer.
C'est le but de Google.
Si enregistrer, c'est son fonds de commerce.
S'ils te mettent à disposition des outils gratuits, ils le font pas pour tes beaux yeux. Ils le font pour récupérer un max d'infos sur toi.
Honnêtement, je suis pas sûr qu'ils utilisent tout. Alors, à mon avis, parce que le point de pour avoir des infos, c'était notamment sur Google Analytics, à mon avis. Mais le jour où Analytics marche plus, et Gamecom bloque le JavaScript ou etc., ils étaient dans la merde. Donc ils ont développé, ils ont fait une multitude de points d'entrée des informations pour quoi. Mais je suis pas sûr qu'ils utilisent tous.
Ils utilisent pour moi le maximum d'informations.
Je vois pas pourquoi ils les utiliseraient pas.
Tu vois, parce qu'ils sont en point de secours. Si un jour le JavaScript se casse la gueule et
non, justement,
rien à voir.
Plus ils augmentent ces points-là, plus ils sont capables de croiser et de donner une valeur au profilage de l'internaute. Bah oui. Ouais, plus tu croises les données, plus tu peux être précis.
Oui, non, mais si on prend les DNS de Google, faire le silage d'Internet avec des DNS,
bah, si.
Il y a des moyens.
Si, parce qu'ils savent que telle adresse IP a demandé tel site Internet.
Oui. Oui, c'est un historique.
Bah oui.
Alors.
Bon, c'est forgé, allez, pas pour... Allez.
Je termine.
C'est forgé.
Je termine. Et donc effectivement, Google Analytics, c'est l'outil qu'on retrouve le plus souvent sur les sites.
Mais je pense que
c'est l'un des outils les plus puissants de l'analyse statistique.
Ça va être chiant.
Si ce n'est le plus puissant, le plus performant, effectivement, le maximum de sites l'utilisent. Donc ça veut dire que quand on met par exemple Google Analytics sur un site de collectivité territoriale, ça veut dire que sciemment, on donne toutes les statistiques de visite à Google. C'est comme si vous mettiez un agent de Google à votre porte et qu'il comptabilise toutes les personnes qui viennent chez vous et qu'il les suive en plus à la trace dans tout votre bâtiment. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le gros problème. Donc merci Google.
Mais comme vous le disiez la semaine dernière, je connais un hôpital, donc c'est pas le mien, où l'informaticien, pour suivre les stats sur son intranet, donc où il y a des dossiers patients, etc., avait mis pendant un temps Google Analytics. Ouais. Donc Google avait accès à tout l'intranet. C'était merci Google.
Oui,
donc c'est toujours assez, ouais.
C'est bien suffisant, non?
Oui, c'est pas mal.
C'est un petit peu à charge quand même. Hein.
Oui. Ouais, c'est un manque de décharge. Imagine, merci Google d'avoir révolutionné Yahoo. C'était une grosse merde, Yahoo. Enfin, il y a un truc à son site et tout, c'est trop chiant.
Bah alors, merci DuckDuckGo de bien les faire chier en ce moment.
Tu vois, tu regardes, je disais Google Search. Quand tu regardes le nombre de personnes qui tapent dans Google, même l'adresse URL du site pour y accéder, c'est énorme. Si tu veux, quand tu regardes les stats, les moteurs de recherche qui nous fournissent le plus de visites, donc c'est Google number one. Bing, effectivement, arrive en deuxième, mais c'est un rapport de 1 pour 10, voire 1%.
Mais moi, je vois ce que je gagne avec la pub Google. Je suis vraiment sur une niche. Et sur le prix qu'a payé l'annonceur, je prends 50%, je crois que c'est ça, à peu près 53%.
C'est comme ça qu'ils ont...
Donc je me dis Google gagne déjà avec mon site deux fois plus, enfin autant que j'ai gagné quasiment. Ouais. Et pourtant je suis vraiment une niche, hein. Ce qu'ils doivent gagner en tout, mais c'est énorme.
Bien sûr que c'est énorme. Et comment crois-tu qu'ils peuvent se construire des data centers un peu partout dans le monde?
Oui.
C'est comme ça qu'ils promeuvent leur truc justement. En mettant un accent sur ton site, ça leur permet eux de mieux les tracer, mais en même temps ça te rapporte de l'argent, donc tu vas être enclin...
Ah oui, non, là je vais sur la finalité de Google, hein. Ça gagne des thunes, hein, de pouvoir... Voilà.
C'est comme ce qu'ils font sur YouTube, c'est-à-dire ils font miroiter le fait qu'il y ait pas mal de personnes sur YouTube qui arrivent carrément à en vivre pour pousser les gens à mettre toutes leurs vidéos sur YouTube et c'est comme ça qu'ils deviennent numéro 1.
Moi j'en vis pas non plus, hein. Enfin voilà. Là il y a eu une montée à la fin de l'année et je redescends. J'ai un concurrent qui me prend un petit peu. Malheureusement.
Bon, ceci dit, on va leur envoyer Moebius AI. Il va leur trouver des failles.
Mais ce qui est chiant, c'est que le concurrent n'a pas très bien optimisé son site pour gagner des sous et ça m'énerve. Je me dis, il me pique des visiteurs, ça me...
C'est l'argent qui se perd.
Voilà. Faudra que je lui envoie un petit mail pour lui dire, ouais, si tu fais ça, fais-le bien, quoi, merde.
Alors, le sujet suivant, monsieur Niark.
Alors, moi, c'était jusqu'où s'arrêter la sécurisation des données. Alors, sécurisation dans le sens redondance, etc., serveur, voilà, pas sécurisation pour les hackers, c'est un autre sujet. Alors, tout ça parce que on a régulièrement tenté de me vendre ce qu'on appelle des PRA, des plans de reprise d'activité, avec des gros systèmes où, généralement, tu as deux gros serveurs de virtualisation. Chaque virtual machine sur les serveurs, enfin, chaque VM... Chaque serveur est virtualisé et est contenu dans deux VM, donc il y a une image de l'autre. Donc, ce genre de système-là, quand une VM scratch, c'est à l'autre qui. Les gens sont redirigés vers l'autre virtual machine à chaud. Okay. Mais si on peut imaginer aussi que le gros serveur de virtualisation tombe en panne, donc il y en a un deuxième, juste à côté, parce qu'il faut connecter 1 giga ou moins 2 gigas. Et éventuellement, s'il y a un incendie dans la salle des serveurs, il faut créer une deuxième salle de serveurs miroir. Et si jamais il y a un incendie qui ravage tout, il faut avoir fait des bases, enfin une sauvegarde externe que tu vas payer aussi. Donc si on chiffre tout ça, on arrive à 100 000 euros à peu près. Enfin, voilà, c'est le genre de chiffrage.
Investissement, fonctionnement.
Investissement, ouais, 100 000 euros à peu près. Ta licence VMware, enfin un petit peu tout. Hein.
Ouais. Et en fonctionnement.
En fonctionnement, je ne saurais pas trop dire. Mais cela dit, après, t'es coincé avec des grosses machines de marque, IBM ou ce que tu veux. C'est pas trop de. Ils vendent pas trop sur du. Moi, les gens qui me démarchent, ils vendent pas sur de l'assemblée ou des trucs comme ça. Et du coup, tu te dis, pareil, si un jour le développeur rend. Enfin, si jamais ils rendent obsolète leur système, t'es coincé quoi. Enfin, rendre obsolète, entre guillemets, c'est ne fournissent plus les pièces détachées. Voilà. Et tout ça pour gagner, mais en fait, c'est que quand il y a une panne, ça se voit même pas pour l'utilisateur. C'est ça l'idée. Bon, sachant que quand tu as un gros bug, généralement il va quand même se répliquer dans la machine virtuelle. Si le bug se fait pas trop rapidement, il va se répliquer dans l'autre machine virtuelle et t'as bug partout. Quoi. Donc t'es quand même emmerdé. C'est pas non plus magique. Hein. Donc tout ça, c'est du 100 000 euros pour pouvoir faire de l'informatique sans interruption. Et moi, le truc que je me dis, c'est est-ce nécessaire de faire de l'informatique sans interruption? Je l'explique.
Dans quel cadre?
Moi, je suis dans le cadre d'un hôpital.
Voilà, je l'avais précisé.
Oui, mais non, je ne gère pas d'urgence. Et même quand tu gères des urgences, c'est pas le dossier patient qui va sauver la personne, c'est quand même le médecin. Voilà.
Non, mais effectivement, c'est important de le mettre dans le cadre d'un hôpital, parce que quand tu fais du e-commerce à gros niveau...
Là, c'est vrai qu'une heure de panne peut être très critique. Voilà. Si jamais tu gagnes 100 000 euros par heure, les investissements, tu le... Voilà.
Puis... Je dirais aussi, il faut prendre en compte si tu héberges un serveur mail ou pas. Parce que si ton serveur mail est down, tu as des mails qui se perdent.
Non, tu fais un backup MX. Un serveur mail, tu sais, dans les champs, tu dis quel est le serveur prioritaire. Et tu peux donner plusieurs. Dans ton DNS, et tu peux donner plusieurs serveurs. Si jamais le prioritaire répond pas,
oui.
Le mail sera envoyé ailleurs.
Je dis,
tu récupères après. Quoi.
La haute disponibilité est aussi intéressante si tu gères un serveur mail qui a des ODB. C'est-à-dire que. Tu dis, est-ce que c'est important que le serveur ne soit pas down une seconde? Si tu as 10 mails par seconde, un serveur down une seconde, c'est 10 mails de perdu.
Non, un serveur down 10 secondes, ça va être les gens ne pourront, enfin les gens qui veulent consulter leur mail ne pourront pas y aller pendant 10 secondes. Mais les mails qui arrivent, ils vont passer tout simplement sur le serveur.
Non, et puis de toute façon, tous les serveurs SMTP,
généralement sont doublés.
Non, mais même quand ils envoient sur un autre serveur, si l'autre serveur ne répond pas...
Ou ils retentent un peu après.
Ils retentent un peu après.
Il n'y a pas de possibilité.
Ils peuvent retenter même jusqu'à une journée après.
Ok.
Voilà. Donc ça, c'est pas un problème.
J'avais lu le protocole de mail et ouais. C'était pas très clair. Donc j'étais convaincu que si le serveur était down, les mails se perdaient.
Non, généralement, ils retentent.
Les serveurs retentent.
Les spammers ne retentent pas. C'est aussi comme ça parfois qu'on... C'est déjà osé pour hors sujet. C'est comme ça parfois qu'on va tester les spammers. Le mec, on lui dit non, tu retentes plus tard. S'il le fait pas, c'est que c'était un spammer. Donc tout ça pour dire qu'on va... investir des 100 000 euros pour éventuellement ne pas perdre les heures de réparation. J'ai bien dit éventuellement parce qu'il y a quelques bugs qui passeront quand même, faut être clair, et ce sera down quand même. En sachant que réparer un serveur, honnêtement, quand tu as les pièces détachées, au maximum c'est une journée. Et encore, ça, là je dis c'est bien le grand maximum si tu as les sauvegardes. Voilà, après on me disait aussi, oui, mais en cas d'incendie, ta salle des serveurs, tes données sont fichues. Oui, mais un plan de reprise de l'activité, c'est pas dit plan de reprise de l'activité informatique. Je pense que la priorité du plan de reprise de l'activité informatique, dans le cas d'un hôpital, c'est de reloger les patients à un endroit, dans un autre hôpital. C'est pas de récupérer leurs données médicales.
Bah, ça va avec, quand même.
Non, les résultats de la boue, tu les refais, hein, tu as envie de tester si tu les as perdus.
Lui, il s'en fout, c'est toi qui le refais.
Non, ça coûte cher, mais... Voilà, à 100 000 euros le truc, je me dis déjà si ça s'écroule au-dessus de la salle des serveurs, c'est des chambres, donc il y aura beaucoup de morts. S'ils sont morts, on s'en fout encore plus de leur donner de données. Voilà, on ira plus d'abord déterrer les cadavres et après les disques durs des serveurs. À mon avis, ça va être comme ça. Parce que l'hôpital ne marchera pas. Bien sûr, comme disait Zigazoo, si t'es une entreprise de e-commerce, bon, voilà. Mais les mecs, ils arrivent à vendre du PRA, les entreprises qui n'ont pas du tout besoin, quoi. Il y a des DSI qui pigent pas ça. La sauvegarde externe. Pareil aussi, on a essayé de me vendre ça. Alors, dans tout établissement recevant du public, généralement les murs s'en trouvent 2 heures minimum. Si ce n'est 4 heures, si c'est des locaux à sommeil. Ce qui fait qu'en général, pour que le feu se propage d'un bâtiment à l'autre, il faut une dizaine d'heures en fait. Donc si jamais plusieurs bâtiments à la fois, ou voire même tout le bâtiment s'écroule, c'est que les pompiers ils ont été très nuls. Voilà.
Clairement.
Clairement. En plusieurs heures, ils ont le temps. Donc voilà, pareil, la sauvegarde externe, je vois pas l'intérêt. Avoir une sauvegarde dans un autre local, je suis d'accord.
Attends.
Voilà, et juste pour le petit truc que je trouve aberrant, c'est aussi de sprinkler le local server. Je suis désolé, envoyer de l'eau sur des machines, c'est pareil qu'envoyer que les brûler, à mon avis.
Il y a des systèmes qui utilisent du gaz.
Ouais, il y a des systèmes au gaz. Alors, le problème du système au gaz, c'est qu'il faut que... tu vas pas pouvoir compartimenter toute une zone de locaux de travail parce qu'il faut que les gens puissent évacuer. Donc il faut vraiment que, compartimenter que la salle des serveurs soit assez petite. Ouais. Ou la compartimenter en plusieurs. Côté,
Et puis surtout, tu as le problème en fait.
Ça c'est que... pas 150 racks quoi. Si tu dois juste isoler un petit carré où t'as 2 mètres carrés où t'as 3 racks dedans, ça va quoi.
Alors l'un des problèmes aussi du gaz, c'est que si jamais il y a une fausse alerte, c'est-à-dire que le système a détecté un feu qui n'existe pas.
Moi, ça m'est jamais arrivé, j'en ai un. C'est pas le gaz, mais ouais.
Eh ben, le gaz se libère.
Oui.
Ok, donc ensuite, il faut que tu fasses venir quelqu'un pour pouvoir vider le gaz.
Ouais, donc tu fais venir
les pompiers.
Les pompiers le frise ont des pompes pour ça.
Ouais.
Enfin, généralement, il y a un raccord ZEG, en fait, on peut raccorder un tuyau pour arriver. Ouais.
Tu branches une ventilation MVMC toute comme dessus et puis tu l'allumes quand tu vides les gaz, non? Je sais pas. En quelques heures.
C'est un gaz qu'il n'est pas conseillé de relâcher dans l'atmosphère.
Ça dépend, ouais. C'est
bah, généralement, ça dépend quel gaz inerte tu faisais.
Mais généralement, tu évites de le rejeter comme ça.
Relâcher,
ouais.
Ouais. Voilà.
Et le truc, c'est qu'une fois que les bonbonnes sont vides, elles sont vides.
Bah, il faut avoir suffisamment de bonbonnes pour deux coups.
Ouais.
C'est une technique, oui.
C'est technique, ouais. Si tu veux, le problème, c'est que à partir du moment où tu vas lâcher le gaz, faut pas qu'il reste de bonbonnes, parce que mettons que ton système foire un peu, que ta pièce soit pas vraiment étanche et tout, que le feu continue quand même de prendre. Pour raison X et Y, ça peut arriver. S'il te reste des bonbonnes dans la pièce qui sont encore pleines,
oui.
Ça peut faire boum.
Faut déjà qu'il y ait un feu.
On est d'accord. Donc ceci dit,
ce scénario-là,
dans une collectivité territoriale dont je ne sais pas besoin, c'est arrivé récemment effectivement que il y a eu un faux déclenchement. Effectivement, ils se sont retrouvés avec les bonbonnes vides, sans feu, et ils ont dû continuer après leur activité. S'il y a un feu qui se déclenche après, ils vont dans l'os quoi, tant qu'ils n'ont pas rechargé les bonbonnes.
Voilà. D'où avoir les moins de coups. Si les risques en cas d'incendie, je pense que vu toutes les bouteilles d'oxygène qui traînent dans un hôpital, c'est moyennement le problème, les bonbonnes.
Alors c'est un comburant. Alors ça va amplifier le feu, mais ça va pas faire d'explosion, etc. L'oxygène.
Ah, bouteille sous pression.
Bouteille sous pression.
Oui, il faut normalement dans le local oxygène, t'as rien à brûler, à part l'oxygène. mais je veux dire, t'as pas un stock de carton à côté des bouteilles d'oxygène, en théorie.
Ah, si tu respectes le niveau de sécurité, en principe, non.
Ouais, voilà.
Donc c'est bâtiment entier en feu.
Voilà, et bon, ma conclusion c'était que peut-être que pour si jamais vous avez des beaux commerciaux qui viennent vous voir pour vendre de l'IBM et des PRA, etc., peut-être que les serveurs assemblés avec des disques durs un peu standard, etc., vous aurez peut-être un peu plus de panne, et encore que j'en suis même pas sûr, mais quand vous aurez besoin de les réparer, honnêtement, vous allez chez l'assembleur du coin, réparer, chercher la pièce, et puis voilà quoi.
Alors,
et réparation dans la journée.
Là, je vais citer Google. Je vais citer Google.
Oui, Google a fait une étude statistique comme quoi.
Une étude statistique, ouais. Donc sur il y a quelques années, sur les disques durs, parce que Google consomme un nombre de disques durs impressionnant. Et ils ont fait des comparatifs entre les disques durs en règle, les disques durs SCSI, les disques durs de marque, les disques durs pas chers, etc. Et ils sont aperçus que le taux de panne ne dépendait absolument pas du prix du disque dur, de la technologie utilisée, SCSI ou SATA ou ce que tu veux, et que globalement, tu prenais le premier prix et tu avais autant de panne que quand tu prenais du haut de gamme.
Ouais.
Voilà. Donc c'est pour ça que acheter effectivement des systèmes RAID 5 et compagnie, au final, c'est pas forcément sûr que tu t'y retrouves.
c'est du Red
Sun. Et quand, tu regardes en plus le principe de Google, le principe de Google pour faire ses data centers, ça a été de combiner des ordinateurs haut de gamme.
Autre point qui me chagrine aussi, c'est sur le côté virtualisation des serveurs. Alors bon, il y a Xen hein, en libre, mais quand tu vas virtualiser sur un système propriétaire, ton virtual host, le jour où Microsoft Hyper-V ou VMware décide de plus maintenir ce type de fichier-là, ta virtual machine, si tu n'as plus le CD d'origine virtuelle à VMware, tu ne pourras plus l'installer, alors que c'était censé être une protection. Donc c'est un peu lié, c'est un des arguments des gens qui vendent de la virtualisation de serveur. C'est que si un jour le serveur il plante, tu prends la
copie,
la copie pouf, tu la remets sur le serveur et c'est bon, puisque tu n'as pas géré le périphérique. Mais tu es quand même dépendant du fournisseur, quelque part, qui a fait un logiciel propriétaire. Voilà. Donc tu as encore une surcouche à des surcouches propriétaires. Donc tu es dépendant à la fois, si tu virtualises à Microsoft, tu es dépendant à la fois de VMware et de Microsoft. Alors qu'avant, tu étais dépendant juste de Microsoft.
C'est aussi le cas des données que tu gères sur ta base de données, du coup, elles peuvent aussi être périmées comme ça. Oui. Enfin, il y a ce problème du propriétaire d'informatique. Hein,
ouais. Voilà,
c'est à peu près tout qui peut périmer de cette façon.
Et je pensais enchaîner en fait sur l'open data.
Je vois pas le lien spécialement.
On vient de parler de péremption des données.
Du propriétaire et compagnie.
Moi, je ferais juste une remarque sur le fait que ce qu'on t'a proposé, ça me paraît un peu overkill parce que, en fait.
Ah oui, non, mais là je suis allé dans des conférences pour voir ce qui existait.
Il existe des solutions certainement intermédiaires beaucoup moins chères. Là, tu as deux serveurs virtualisés sur deux serveurs qui sont
là, je disais le top, un serveur qu'ailleurs. Moi, j'avais fait chiffrer autre chose, mais.
Disons que avoir déjà un serveur normal dans une pièce et le miroir de ce serveur-là ailleurs.
C'est déjà beaucoup, ouais.
Ça fait que deux machines. T'as des logiciels qui permettent de mirrorer automatiquement.
En sachant que
ça permet d'assurer une continuité de service pour beaucoup moins cher que ce que tu.
Mais en sachant que ce que tu dis là, c'est que le problème du miroir, c'est que le miroir peut copier la connerie. Tu vois ce que je veux dire? C'est que si tu réagis pas assez vite. Si la connerie fait pas planter de suite le serveur principal, le miroir va la copier la connerie. T'as la connerie sur les deux serveurs, voilà, ça avance pas du tout.
Tu fais des scripts de test pour vérifier si ton serveur fonctionnait, voilà,
c'est
s'il l'est pas, tu bascules sur l'autre.
C'est le bon vieux backup qui reste.
Ouais. Ça c'est pareil, ça marche quand le problème testé est un problème que tu as déjà rencontré ou auquel tu t'attends. Quand c'est un problème auquel tu t'attends pas,
c'est pas.
Et puis, c'est le problème des tests unitaires en informatique.
Oui, c'est le problème des tests unitaires.
Les tests unitaires, bah effectivement, tu peux en faire 50 000 jusqu'au jour où tu vas tomber sur le truc que tu n'as pas prévu. Bah voilà.
Disons qu'il faut faire des tests unitaires positifs, pas négatifs, ça ne faut pas chercher des bugs. Il faut décrire précisément comment ça doit fonctionner et tester que ça fonctionne comme ça. À partir de là, tu ne peux pas rater un bug.
Oui, mais parfois, tu as des effets dominants.
Ah si. Complètement. Ah oui, non, là-dessus, je te garantis que là, avec la meilleure volonté du monde. Si tu fais tous tes tests unitaires comme tu veux, à partir du moment où le code est un peu complexe, évidemment, si tu fais des tests unitaires pour une seule boucle fort sur 10 entiers, on est d'accord, là tu vas pouvoir effectivement être exhaustif sur tous les tests. Sauf que il y a forcément des choses quand tu fais tes tests unitaires auxquelles tu ne peux pas penser. C'est pas possible de penser à tout. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des failles
dans tous
les logiciels, qu'il y a des failles justement de sécurité, qu'il y a tout ce que tu veux. Parce que tu peux pas penser à tout, c'est pas possible.
J'ai un shell.
Je voulais dire, parfois, tu as des effets dominos, genre le dernier gros bug que j'ai eu, mais c'est ma faute, que j'ai eu au travail, c'est j'ai modifié le script de le script IP tables du proxy, et sans faire exprès, j'ai bloqué les requêtes DNS en sortie. Mais comme il avait un cache DNS, je l'ai pas vu de suite. Je suis parti, et au bout d'un moment, il m'a empilé, il a plus réussi à faire des DNS. Et en fait, il a fait des messages d'erreur. C'est les logs qui m'ont saturé le disque dur. Mmh. Tu vois, donc le même matin, j'ai tout planté. Mais entre l'erreur et vraiment le fait que ce soit bloquant, il s'est passé une heure ou deux, quoi.
Oui. Voilà. Ah, mais t'es jamais à l'abri de tout. Hein. Je parlais de solutions à ta manière, moins sûres, forcément.
Oui, déjà, aujourd'hui, on a une grande chance, c'est que la plupart des langages qu'on utilise sont des langages qui gèrent eux-mêmes les allocations mémoire.
Ouais.
Donc. Globalement,
c'était une grosse évolution ça.
Mais globalement, tu as très peu de fuites de mémoire. Tu prends PHP, alors PHP, on dit ce qu'on veut, mais effectivement, déjà, c'est PHP qui va gérer les mémoires, et entre chaque appel de script PHP, il remet tout à zéro. Donc effectivement, tu peux avoir une fuite de mémoire qui va durer juste le temps d'un script. Et encore, en PHP, tu peux limiter la taille mémoire de maxi. Quand on faisait du C ou du C++, les fuites de mémoire, c'était l'horreur. Et même encore, tu regardes sur certains systèmes d'exploitation, tu retrouves des fuites de mémoire. Malgré tous les outils d'analyse d'occupation mémoire que tu veux. Donc ouais, pour te redire le truc, ouais, les tests unitaires, oui, tu peux en faire autant que tu veux, mais
il arrive toujours un moment où tu vas tomber sur... une idée de principe, quoi, sur un truc un peu plus cheap, certainement qui ne coûte pas les 100 000 euros, donc au lieu d'acheter un serveur, t'en achètes deux.
100 000 euros, Vivernode, mais c'est dans ces zones-là.
Donc ton serveur coûte certainement 1000 euros la machine, du coup ça fait un plan à 2000 euros.
Non, le serveur, mon bon serveur, tu comptes entre 3 et 5000 euros sans licence.
C'est les licences, de toute façon, qui coûte cher.
Ouais, c'est les...
Tu sais, quand tu prends, sans parler de logiciels professionnels, enfin de logiciels spécifiques et compagnie, tu prends un graphiste ou un designer qui veut se lancer son activité, s'il fait tout honnêtement,
oui, s'il paye ses licences Adobe.
S'il paye ses licences Adobe, il va avoir beaucoup plus cher de licences Adobe que le matos.
Ah oui, clairement.
Ah oui.
J'ai une sœur qui est étudiante en art.
Pour te donner une idée, ça c'est pas confidentiel.
After Effects, c'est juste inabordable pour un étudiant. C'est genre 600 euros par an.
After Effects, et encore, quand t'as After Effects, tu fais pas tout. L'idéal pour effectivement un créateur, c'est d'avoir l'ensemble des outils.
Ah oui, là.
Si tu veux, pour justement pouvoir faire du vectoriel, pour pouvoir faire de la retouche photo après avec Photoshop, enfin, voilà. Donc quand tu commences à taper là-dedans, bah, tu t'aperçois que tu as toujours plus cher de logiciels que de
matos. Et pour te donner une idée, alors pas le dernier Microsoft que j'ai installé, mais l'avant-dernier, donc l'an dernier, le serveur, il avait physiquement, il coûtait 4000 euros à peu près, donc une belle machine, redondée, faire deux prises électriques, etc. Par contre, en licence, donc il faisait du client léger, enfin, c'était un serveur d'application, donc j'ai dimensionné à 60 utilisateurs simultanés, plus un serveur Microsoft SQL, où pareil, il faut compter un utilisateur par client léger en fait. Donc dimensionner les licences, enfin 60K, on dit comme ça, 60K client léger plus 60K SQL, ça m'avait coûté 22 000 euros, je crois, un truc comme ça de tête. Voilà. Donc pour un serveur à 4000 euros, t'avais 22 000 euros pour Microsoft. C'est ça leur idée.
Alors je voulais parler là, tout à l'heure de...
Ces chiffres-là sont produits dans l'annonciel, donc je suis ignore que je ne suis pas mon repreneur.
C'est vraiment plus. Je voulais parler de l'open data parce que on a appris très récemment que d'ici 2015, une loi allait être votée par le gouvernement qui imposerait l'open data aux collectivités.
Ah, on entend plus longtemps ça.
Non, mais apparemment, c'est annoncé. Le projet de loi est en cours.
Est-ce que c'est pas un peu démagogue ?
Il me semble avoir vu passer des directives européennes sur ce sujet.
Voilà. Et donc, l'une des grosses difficultés que vont rencontrer la plupart des collectivités territoriales, c'est que, bien souvent, pour gérer leurs données, elles ont fait appel à des logiciels propriétaires. Donc, effectivement, elles ont fait des cahiers des charges. Elles ont fait des cahiers des charges qui disent, bah voilà, on veut telle fonctionnalité.
Bon point,
mais la plupart du temps,
aussi, tu vois. Prépare-toi à éteindre ton serveur, je fais une forme bombe.
Alors, pour la petite explication, juste, c'est que j'ai mis un petit serveur à pirater, je vous expliquerai après.
Tu l'as coupé.
Et Moebius est en train de se charler dessus.
Donc, la plupart du temps, aucun cahier des charges... Donc, un cahier des charges n'a pris en compte le fait qu'on puisse exporter les données sous des formats interopérables. Voilà. Et donc, on se retrouve avec des données qui sont gérées par des logiciels propriétaires en interne, mais pour lesquelles il est plutôt difficile de faire des extractions dans des formats type.
Après, si elle en impose, ils vont générer du CSV bidon ou des trucs comme ça. Hein,
oui, voilà. S'ils l'imposent. Sauf que.
Dans l'état actuel des choses,
dans l'état actuel des choses, ça ne fait pas. Donc, s'ils veulent l'avoir, il va falloir payer.
Dans l'état actuel des choses, si tu vas sur opendata.gov.fr, tu as essentiellement du Word, du
PDF,
de l'Excel, compagnie. Hein.
Moi, il y a un autre truc qui me choque aussi là-dessus, c'est que en parlant de collectivité, Donc quand on prend légalement, les collectivités, c'est des administrations décentralisées, sur le premier cours de droit public, qui ont une mission. C'est-à-dire que normalement, ils n'ont pas le droit de faire autre chose que leur mission. Mmh. Et c'est que certaines collectivités aient vendu leur logiciel qu'ils ont créé en interne. Moi, ça me choque un peu. Ils sont là pour vendre, un hôpital est là pour vendre du soin, une mairie est là pour vendre de l'administration. Enfin, encore que la mairie, je suis pas sûr que ça marche comme ça.
Alors, vendre un logiciel, pour moi, effectivement, à partir du moment
où... Pour moi, ils se sont écartés de leur mission principale, c'est
illégal. À partir du moment où c'est une collectivité publique...
Ils ne sont pas en train de faire de bénéfices, déjà.
Ça me paraît un peu bizarre de...
Tu peux avoir des budgets annexes, il y en a qui ont vendu leur création en termes.
Ça me paraît assez...
Pour une collectivité publique, ça me paraît bizarre. Hein. Je pense qu'ils n'ont pas le droit de faire de bénéfices.
Oui, ils n'ont pas le droit de le vendre en direct, mais par contre, ils ont le droit, par exemple, de poser une licence sur ce qu'ils ont développé. Et tout non.
Un
être licencié pour vendre et qui va reverser en fonction d'un contrat.
T'as des budgets annexes, tu peux récupérer des sous, genre un hôpital, s'il a trop de locaux, il peut les louer. Enfin, tu vois, c'est l'exemple, hein, mais pour moi, sa mission, c'est de faire du soin, et normalement, dans la loi, ils font du soin, point. Enfin, voilà.
Après, s'ils vont dans le logiciel, ils servent à faire du soin.
Ils sont autonomes.
Une
administration décentralisée est autonome, mais elle a le droit de se concentrer sur sa mission.
Oui, mais là, ce que tu dis, c'est vrai que ça peut être choquant s'il y a une dérive, mais tu peux pas non plus interdire en disant, toi, tu fais. Dans ce cadre-là, et c'est tout, parce que si jamais ils ont des besoins annexes, ils sont capables de les gérer eux-mêmes, ils sont obligés de demander à quelqu'un. Et si jamais il y a la possibilité, par exemple, c'est comme si en France, tu n'as pas le droit d'avoir police et gendarmerie, est-ce que ça fait la même chose? Ça fait concurrence? C'est un peu... tu vois, ça tend vers l'autre côté et... Si tu dis un truc, tu as le droit de faire... tu dis l'hôpital, il fait du médical, il a le droit de vendre que du médical.
Bah ouais.
Donc, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas médical, il n'a pas le droit de le faire en lui-même, il est obligé de payer quelqu'un ou quoi que ce soit.
Non, il n'a pas le droit de le faire.
Voilà. Donc, c'est-à-dire que s'il a ce besoin, il va être obligé d'aller le chercher ailleurs.
Mais non, t'as pas besoin de faire une prestation.
Non, mais si c'est une prestation interne, ça compte pas. Enfin, disons que si l'hôpital a besoin de préparer ses propres locaux, il n'est pas obligé de passer par cet examen, parce qu'ils ne le vendent pas à l'extérieur, ils le vendent à lui-même.
Oui, c'est dans son sens. Hôpital qui développe en interne un logiciel et qui après va le revendre aux autres hôpitaux.
Si le but premier était de le revendre, oui, là c'est. Mais si le but premier était de développer quelque chose en interne et qu'après.
Mais dans ce cas-là, il devrait pas le vendre.
Ouais. Ça a été développé sur des fonds publics.
Voilà, c'était développé sur des fonds publics pour une institution publique et vendu à d'autres institutions publiques. Voilà. C'est idiot.
Je suis en train de kill Apache à partir de Apache.
Mon ami est en train de détruire mon race de répit.
Bon, sérieux.
Voilà. Non, la logique aurait voulu que si un logiciel de développement interne qui répond à un besoin d'un hôpital soit automatiquement diffusé gratuitement à l'ensemble des hôpitaux.
Oui, c'est plus pour aussi. Enfin, voilà.
Après, ils l'utilisent ou n'utilisent pas selon leurs besoins. Mais sur des fonds publics un logiciel pour le vendre à des autres administrations publiques, c'est idiot, c'est l'argent qui tourne en rond.
C'est clair, à la rigueur, ce qui revient sur leur frais de développement.
Oui, ce qu'ils peuvent facturer à la rigueur qui me gênerait moins. C'est le fait de proposer des formations
ou des
choses comme ça. Vraiment dans le pur service plutôt que du logiciel lui-même.
Donc dans l'idéal, c'est développé sur des fonds publics, ça devrait même être open source. Hein. Libre, voilà. Je dirais plus libre.
J'ai cette source, idée-là aussi, mais bon après... Après quelque part l'hôpital est concurrent avec les cliniques. Hein. Enfin, désolé de l'exemple de l'hôpital, hein. C'est une déformation professionnelle, mais je pense qu'on pourrait trouver d'autres exemples. Et quelque part, c'est vrai que l'hôpital crée un outil qui le met à disposition des cliniques.
Concurrence avec les cliniques.
Si. On est totalement en concurrence.
Disons que...
Je casse, t'es terrible, hein, ça.
Non, mais si, franchement, d'un point de vue global de la gestion de l'État, etc., si les gens préfèrent payer et aller dans les cliniques, ça arrange plutôt la sécurité sociale.
Aujourd'hui, la tarification devient une tarification d'activité. L'hôpital n'a plus un budget global.
Ah, mais ça, je sais, je connais.
Voilà. C'est une tarification d'activité. Plus tu fais d'actes, plus... Plus t'as d'argent. En sachant que les cliniques vont préférer les activités un peu plus rentables. Quoi. Et que l'hôpital va essayer de faire que des activités rentables, mais il a un peu moins la
possibilité. Il a des obligations. Quoi. Un service d'accueil des urgences, c'est moyennement rentable, mais il est obligé de le faire.
Voilà. Sujet suivant, vite fait, c'est juste pour vous expliquer donc les interruptions de Moebius. Je vous mettrai... C'est parce que j'ai mis un faux sur Raspberry Pi, j'ai mis un serveur Apache avec un site
que j'ai fait exprès de ne pas, enfin que j'ai fait exprès de ne pas protéger. Et en plus, les trucs que je voulais protéger, j'ai loupé la protection. Donc voilà, où le défi, c'était le pirater. Donc c'était, Gide était intitulé le livre d'or de la DSRI. J'imaginais qu'il y ait un livre d'or tout moche sur le site de la DSRI, c'était de pirater la DSRI, sauf que là, on n'a pas piraté la DSRI, même mon Raspberry Pi, forcément. Et donc mon Ibus a bien déchiré les... et en train de le massacrer. De
on est bien d'accord.
Voilà. Je publierai le code source du site pour que vous puissiez le mettre sur votre propre site, que je puisse venir vous pirater. voilà. Et ça fait un enchaînement sur la DCRI, l'actualité. Est-ce que quelqu'un est capable de reprendre les dernières actualités de la DCRI qui a flashé la chronique avec Wikipédia, avec Facebook? Non. La dernière non. actualité, c'était le fait que la DCRI ait demandé à ce qu'on retire une page de Wikipédia.
Je me souviens. Il faut me servir, il était censé.
Sauf qu'en faisant ça, du coup. Sauf qu'en faisant ça, du coup, il y a eu beaucoup plus de monde qui allait voir la page en question. C'est l'effet, je sais plus comment on dit ça.
L'effet présent.
Là, je kiffe.
Pour Barbara Streisand.
Voilà.
Qu'est-ce que c'est quoi elle?
C'est-à-dire qu'en fait, Barbara Streisand...
Il n'a même pas le temps de rajouter,
si je me souviens bien.
Il y avait la chose par sur
elle. Elle avait voulu empêcher de la publication de photos de sa maison.
Oui, c'était un truc comme ça.
Voilà. Et d'une petite affaire, en fait, qui ne faisait pas de grand bruit au début, le fait qu'elle s'y soit intéressée et qu'elle ait lancé des procédures a fait que beaucoup de gens s'y sont de plus en plus intéressés pour dénoncer un abus. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec la DCRI. C'est que la DCRI a voulu faire pression sur un contributeur de Wikipédia, donc en le forçant dans les locaux oui. de la DCRI, sous des pressions, à retirer, en fait, à supprimer l'article de Wikipédia. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas tapé sur la bonne personne. Cette personne, ce contributeur, en a parlé publiquement.
Enfin, il a mis une note, en fait, quand il a retiré le billet. Ouais.
Et ça a eu un effet boule de neige, c'est-à-dire que plein de gens ont trouvé ça anormal.
Sans aller voir dans l'historique.
Sans aller voir dans l'historique. Il y a eu la création d'une page à l'identique sur le Wikipédia anglais, donc qui est beaucoup plus difficile d'accès pour la DCRI.
Oui, ouais,
clairement.
Ça dit quelque part, on a quand même modifié une page sur Wikipédia.
Oui, enfin, attention. Attention, Wikipédia, tu as quand même des mécanismes.
Oui, il y a de l'anti-vandalisme.
Mais supprimer une page sur Wikipédia, ça ne sert à rien, de toute façon, parce qu'elle reste dans l'historique. L'information est toujours accessible. Disons que il faut, dans ces cas-là, faire ce qu'ils appellent une purge historique, c'est-à-dire faire supprimer l'historique. Il y a qu'un administrateur qui peut faire ça. Et donc, en France, ils peuvent certainement le demander. Par contre, en Angleterre, aux États-Unis, ils ont moyennement le pouvoir de le faire.
Et puis il y a des Wikipédias dans un peu tous les pays.
Et surtout que ça avait défrayé la chronique, il y a certainement plein de gens qui ont une copie en local au cas où.
Voilà, d'autant que les informations sur lesquelles la DCRI a mis la pression sont des informations qui sont en ligne depuis plusieurs années, qu'on jamais fait.
Pour qu'elles s'intéressent sur Wikipédia, il faut qu'elles soient accessibles sur Internet déjà.
Oui, non, mais elles sont sur Wikipédia depuis plusieurs années.
Ouais. Mais donc, pour qu'elles aient été acceptées sur Wikipédia, c'est qu'on les trouve sur Internet, qu'elles sont vérifiables et...
En fait, les informations...
On a avec nous un modérateur Wikipédia, c'est pour ça.
Non, je suis pas modérateur Wikipédia.
Contributeur.
Non, tu fais partie de la... Les informations,
oui,
en fait,
je la page... On me croit sur le patrouille RC. Ouais. Modérateur, je l'ai
les informations, en fait, qui étaient contenues sur la page sont, pour la plus grande partie, extraites d'une vidéo d'une interview d'un militaire qui travaillait sur cette base et qui apparemment avait reçu l'autorisation et la vidéo est encore en ligne. Donc il n'y a pas d'informations plus top secret défense.
Oui, enfin, que le truc qu'elle a été validé par la hiérarchie de la militaire.
Et une des suites de cette histoire-là, c'est que le militaire qui avait fait cette interview et sur le coup d'une enquête, d'une procédure, pour justement, en gros, lui mettre sur le dos le fait qu'il n'avait pas le droit de l'exposer alors que ça faisait. Alors qu'il avait l'autorisation de sa hiérarchie, il y a une lettre.
Oui, j'imagine que le service communication des armées valide ou pas.
J'imagine qu'ils demandent de voir la vidéo avant qu'elle soit publiée.
Et l'autre actualité.
En, en plus, il y a tout un protocole. Ouais. Je me souviens, on avait, tu vois, par exemple, pour les militaires de, qui étaient venus sur l'Armada, on avait interrogé une Italienne. Eh bien, quand tu interroges, par exemple,
un matelot italien,
une matelot ou une matelote, dans ce cas-là, déjà, tu dois demander effectivement l'autorisation. Et ensuite, par exemple, tu as tout un protocole. Tu sais, par exemple, que si tu interroges une femme militaire italienne, elle n'a pas le droit de tenir le micro.
Ah oui, c'est je vois pourquoi.
Voilà, ouais. C'est-à-dire que c'est à l'intervieweur de tenir le micro.
C'est pour qu'elle puisse dégainer son arme facilement.
Non, non. Je sais pas. Toi, donc il y a tout un tas de protocoles comme ça, et il y a des choses qu'elle a le droit de faire, pas faire, etc., des gestes, enfin, voilà. Donc il chaque fois qu'un militaire parle en public, il y a tout un protocole.
Non, le militaire n'a pas le droit de se battre les couilles, donc c'est mal. Ça fait partie de l'entraînement du militaire, hein, il passe des heures. Et l'autre actualité, c'était... Corben en a publié un truc. C'est que beaucoup d'activistes se sont aperçus, enfin dans Facebook, on peut voir l'historique de ces connexions, où c'est qu'elles ont été faites. Et beaucoup d'activistes, enfin des gens qui sont présents sur des manifestations, se sont aperçus que dans les logs de connexion sur Facebook, il y avait des IP qui correspondaient à peu près aux adresses, soit de la DCRI, soit de la maison des CRS, je ne sais plus laquelle, voilà, au niveau local. Donc, comme quoi, la DCRI, s'ils ont besoin d'avoir des renseignements sur les prochaines manifestations, etc., ben, ils ont les identifiants et les mots de passe des gens pour aller voir sur leur Facebook. Ce serait ça, ma conclusion.
Alors déjà, comment on sait que ces IP viennent de DCRI?
Parce que Google Maps les géolocalise très... Enfin, tu sais que... Le...
D'accord.
Comment on sait, en plus, quand tu demandes une plage d'adresse IP, il faut que tu t'identifies, il faut que tu sois connu.
Non, mais disons que c'est pas du vent, c'est-à-dire qu'on est sûr que ces IP...
C'est pas entièrement sûr que ce soit la DCRI, mais c'était les gens expliquaient qu'ils n'étaient pas à ce lieu-là. Enfin, ça tombe... Ça localise le quartier où il y a la DCRI, et les gens expliquaient qu'ils n'ont jamais allé à ce lieu-là à ce moment-là. Donc il y en a quand même beaucoup qui ont publié le truc, on peut penser que c'est crédible.
En plus, sur des structures comme la DCRI, ce sont des plages d'adresses qui leur sont réservées. Et puis,
ils ont, au début d'Internet, acheté leur place d'adresse à eux. Je pense pas qu'ils,
tous les FAI.
Je pense pas qu'ils les achètent à qui que ce soit. Du coup, c'est aussi un point inquiétant parce que la DCRI n'est même pas capable de camoufler ses propres adresses quand ils font ce genre
de choses. Oui, ça par contre, c'est un peu inquiétant. Ouais. ils sont pas capables d'aller voir.
Moi, je sais que sur un canal IRC, une fois, il y a un type qui demandait alors, je veux scanner des trucs pour trouver des box vulnérables. Et il y a un type qui lui a envoyé une plage d'adresse qui correspondait à celle du FBI. Et il s'est mis à scanner et voilà. Au bout d'un moment, ils lui ont dit quoi, mais bon.
D'accord, ouais. Il y en a un qui lui a envoyé un endmap sur le serveur du FBI juste pour voir s'il débarque chez toi, quoi.
C'est un truc qui commençait par 51.
Ils auraient pu camoufler leur connexion un peu plus, de manière un peu moins évidente. C'est-à-dire que si l'IP apparaît en clair dans les historiques et que c'est connu que c'est leur IP à eux,
alors, à mon avis,
c'est très bon de la part de...
Ça prouverait, entre guillemets, qu'ils ont réussi à choper des identifiants mot de passe de certaines personnes et qu'ils s'y connectent comme ça. Mais pas qu'ils font une grosse feinte pour aller récupérer les données.
C'est pas forcément très malin de la part d'un service de renseignement, quoi. On se demande quel est leur niveau en termes de sécurité informatique et tout.
Ils en feront un film et puis ce seront
les. Ils sont là juste pour
piéger la TCRI.
À mon avis, leur but est tout à fait louable, c'est d'anticiper les manifestations.
C'est leur boulot, Mais disons que. Après, les moyens.
J'ai un devoir de réserve, c'est ça. Je précise ça.
Un devoir de réserve, tiens donc.
Ah, pas en tant que mur, quand Marc. Enfin, voilà pour aujourd'hui. Au revoir, les auditeurs.
Oui, salut.
Salut tout le monde.
Salut tout.